30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à un club mythique du rugby français, le Stade Auceste Tarbais. Le Stade Auceste Tarbais est né en 1902 à la suite de la fusion de deux clubs de la ville, le Stade Tarbais, où l'on pratiquait le rugby, et le Ceste, où on s'adonnait à la boxe et l'escrime. Son vivier fut pendant très longtemps l'arsenal, la manufacture d'armes. En 1914, Tarbes s'incline 8-7 face à l'AS Perpignan. Ce fut un match heurté. Le talonneur tarbais fort fut expulsé dès la 7e minute. Son pilier, capitaine Dufour, une côte fracturée, resta sur le terrain, mais ne pouvait plus pousser en mêlée. Tarbes menait 7-0 à la 50e minute, avant de céder 8-7. En 1920, c'est la reprise du championnat, 6 ans après, suite à la Grande Guerre. Entre 1914 et 1918, la Grande Faucheuse a fait des ravages et les joueurs de rugby n'ont guère été épargnés. De la formation tarbaise, finaliste en 1914, il ne reste plus qu'un joueur. Et ce joueur s'appelle Paul Gallier, né le 21 janvier 1889 à Tarbes, troisième ligne aile avant-guerre, capitaine en 1920, ensuite fonctionnaire des postes, décédé en 1957. En 1920, le Racing s'incline face à Tarbes 8-3. Le Racing aligne pourtant des joueurs de talent, Alfred Jauregui et René Crabos, associés sous les couleurs du 15 de France et avec la particularité d'avoir porté les couleurs de Tarbes la saison précédente, en 1919, en Coupe de l'Espérance. Mais cette finale n'était pas pour les arrières. Les avants du Stade Auceste confisquèrent les balles et inscrivirent un essai collectif pour conquérir un titre si mérité. Des avants tarbais à l'image de Aimé Cassayet Armagnac, dit le boulanger, né le 9 avril 1893 à Mont-de-Marsan. Il fut fait prisonnier de guerre lors du premier conflit mondial alors que son frère Eugène devait y laisser la vie et devint ensuite employé au chemin de fer. Il a évolué au poste de seconde ligne au Stade Auceste Tarbais jusqu'en 1920, puis à Saint-Gaudens et enfin au Racing Club de Narbonne dont il fut le capitaine, ainsi que du 15 de France. Son surnom provient du fait qu'il distribuait généreusement des pains à ses adversaires sur le terrain. Les Anglais disaient souvent qu'il fallait éviter de se frotter à lui. Il compte 31 sélections en équipe de France, de 1920 à 1927. Il participa à 8 éditions consécutives du tournoi des 5 nations. Eugène Ribert 10 et Adolphe Jauregui 9 participations. Et fut capitaine de l'équipe nationale de 1924 à 1927, à 8 reprises essentiellement en 1925 et 1926. Il décède en 1927, à l'âge de 34 ans, d'une méningite, 3 mois seulement après France-Pays de Galles à Swansea. Tarbes aura atteint les demi-finales du championnat de France en 1924, 1926, 1935, 1964, 1968. En 1951, Tarbes, grand favori, échoue face à Carmaux 14-12 après prolongation au Stadium de Toulouse. Les deux équipes sont à égalité 9-9 à l'issue du temps réglementaire. Pourtant, réduits à 14, les Tarnais font la différence grâce à un essai de leur capitaine Louis Aoué, auteur de tous les points de l'équipe carmosine. Une figure tarbaise a fait toute sa carrière à Tarbes, comme Trois Carrels de 1953 à 1969. Il s'agit de Jean-Vincent Dupuis, dit Pipiou, né le 25 mai 1934, à Vic-en-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Adolescent, il est clarinettiste à l'Orphéon de Vic-en-Bigorre. Il débute à 19 ans avec le Stade Auceste Tarbais et à 21 ans en équipe de France. Très rapide, moins de 11 secondes au 100 mètres et très puissant, ses plaquages font des ravages dans les lignes adverses. Il est l'un des tout meilleurs ailiers mondiaux du début des années 1960, le cheveu ras et la moustache fournie. À la fin de sa carrière, Après le Stade Océan de Tarbes, il rejoint l'Union sportive vicquoise, dont il fut également l'entraîneur, et arrête de jouer à 40 ans passés. Il tient ensuite un garage de station-service à Tarbes, puis jusqu'à sa mort, en 2010, le bar chez Pipiou, à Vic-en-Bigorre. Il compte 40 sélections en équipe de France de 1956 à 1964, auteur de 19 essais. Il a fait partie de la grande épopée de Lucien Mias en Afrique du Sud en 1958, puis en 1964. Michel Crost a dit de lui « C'était un joueur magnifique, impétueux, un dévoreur d'espace. Son énergie était phénoménale. Il savait tout faire, déborder, recentrer. Il participait beaucoup au jeu. » En 1973, à Toulouse, Dax a encore laissé passer sa chance. Il s'incline une cinquième fois. Tarbes l'emporte 18-12. Pourtant, Dax était favori suite à sa victoire en demi-finale contre Béziers, 22-3. Les Bigourdans possèdent des joueurs de talent, comme le numéro 8 Christian Paul, le centre Joël Pécune, l'ailier Jean Silière ou l'arrière, buteur et capitaine, Georges Michel. Mais c'est leur collectif qui va se prévaloir lors de cette finale. Avant d'attaquer, il faut savoir défendre, affirme leur entraîneur Gérard Fournier, grand fan de l'Ajax d'Amsterdam et du football total pratiqué par le club néerlandais. Tarbes saisit Dax à la gorge. Si le Dacquois Jean-Pierre Bastia ouvre le score sur une pénalité de plus de 50 mètres face au vent d'autant, Joël Pécune réplique sur un essai en contre. À la pause, Tarbes vire avec 6 longueurs d'avance, 15 après un deuxième essai tarbais de Francis Biescas. Le réveil Dacquois est trop tardif, même si dans les 10 dernières minutes, les Dacquois marqueront un drop, puis un essai transformé. En 1988, victoire d'Agen sur Tarbes, 9-3. On attendait trop d'un affrontement entre deux capitaines étalonneurs du 15 de France, du Broca pour Agen, d'Intrant pour Tarbes. Pas d'essai. On retiendra seulement la blessure de l'arbitre Michel Lamouly, percuté par un avant de Tarbes. Philippe d'Intrant est né le 29 janvier 1957 à Tarbes. Il occupait le poste de talonneur. International français à 5 entreprises entre 1979 et 1990, il est également capitaine de l'équipe de France à 12 reprises. Il aurait dû être un très grand, mais sa carrière a été perturbée par deux événements indépendants de sa volonté et de son talent. Une hernie discale qui le priva de rugby pendant 7 mois et l'avènement de Daniel Dubroca au poste de talonneur pour justement suppléer son absence. D'Intrant et Dubroca ont débuté ensemble en équipe de France le 14 juillet 1979 contre les All Blacks. D'Intrant devient très vite le leader naturel des Bleus et est nommé capitaine en 1984 après le départ de Jean-Pierre Rive. En raison de l'hernie, il retrouve son niveau, mais c'est comme simple remplaçant qu'il participe à la première Coupe du Monde en 1987. Sa persévérance lui a permis de renouer avec les Bleus en participant notamment au tournoi 1989. Pour le reste, il est né à Tarbes, a joué à Tarbes et a entraîné Tarbes. Le stade de Tarbes porte le nom de Maurice Trélu, né le 30 juillet 1881 à Aussin et mort en déportation le 27 janvier 1945 à Buchenwald, arrêté par la Gestapo en 1944. Maire de Tarbes de 1935 à 1944, il a organisé un réseau de sauvetage de l'hôpital de Tarbes pour sauver de nombreux juifs et des personnes pourchassées par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a été joueur de rugby au Stade Océan de Tarbes et président du comité d'Armagnac-Bigorre. Maurice Trélu a été reconnu juste parmi les nations par l'État d'Israël. Son nom est gravé sur le mur d'honneur du mémorial de Yad Vashem. Le club Tarbes a connu de nombreux soubresauts sur la période 2000-2010. Financiers, de fusions ratées avec les clubs de Lannemezan et de Lourdes, d'accession ratée en top 16. Le club est actuellement pensionnaire en national, la 3e division. Tarbes est une commune urbaine de 42 000 habitants. Elle appartient à l'unité urbaine de Tarbes, une agglomération intra-départementale regroupant 15 communes et 80 000 habitants, dont elle est la ville-centre. Il est installé en 1871 un atelier à Tarbes pour la fabrication des canons à balles et autres canons à la suite du siège de Paris par les Allemands qui oblige à abandonner l'arsenal de Meudon. Le 2 février 1871, une centaine d'ouvriers accompagnés de leurs familles et 37 wagons de matériel en provenance de Meudon constituent les premiers éléments constitutifs du futur Arsenal de Tarbes. L'Arsenal est resté en fonction jusqu'en 2006. Pendant la Première Guerre mondiale, Tarbes intensifie sa production en artillerie du fait de son positionnement géographique en arrière du pays. Le maréchal Foch, commandant en chef de toutes les armées alliées, maréchal de France, de Grande-Bretagne, de Pologne, est né à Tarbes en 1851. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 11 septembre 1940, Tarbes, située en zone libre, accueille l'école de cavalerie de Saumur, dénommée à l'époque « École d'application de la cavalerie et du train ». C'est de cette école que sont issus les fameux « cadets de Saumur » qui se sont illustrés par d'héroïques combats sur la Loire en juin 1940 avec d'autres unités françaises. Elle se réorganisera au quartier Soult, aujourd'hui occupé par le 35e régiment d'artillerie parachutiste, jusqu'à sa dissolution en novembre 1942. En effet, le 11 novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord. Tarbes étant en zone libre, est désormais envahie. L'école est dissoute. Durant ces deux années passées à Tarbes, elle formera de nombreux officiers qui rejoindront plus tard les forces françaises libres. L'école se reconstituera à Saumur, dans le Maine-et-Loire, en 1945, sous l'appellation d'École d'application de l'arme blindée et de la cavalerie, devenue en 2009 l'École de cavalerie de Saumur. Le choix de Tarbes en 1941 est lié à l'important haras national de la ville et au cheval tarbé, aussi appelé cheval navarin, qui fut traditionnellement le cheval de la cavalerie française. Ce lien avec la cavalerie se retrouve aujourd'hui encore avec l'implantation à Tarbes, depuis 1961, du premier régiment de hussards parachutistes, l'unique régiment français de cavalerie parachutiste composé de blindés légers aérotransportables. Cependant, Tarbes demeure une ville à fort caractère militaire avec la présence de ces deux régiments parachutistes régulièrement sollicités pour participer aux opérations extérieures de la France.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.